On commence là avec la deuxième table ronde, donc qui, comme l'a dit Serge Tisseron ce matin, fait la suite directe hein, de la première. La première était basée sur la clinique de l'enfant. Là, on va être du coup sur la clinique surtout de l'adolescent, avec du coup trois interventions. Voilà, donc je pense que bah oui, tout le monde est là du coup. Et donc on va commencer tout de suite avec une intervention de Mohamed Chetouani sur l'intelligence sociale en robotique pour l'évaluation d'enfants avec troubles du comportement. Et on attend que le PowerPoint arrive, ça fait le suspense avant de commencer du coup. Alors du coup, pareil, hein, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je profite de ce temps de micro pour le dire. Si vous avez des questions, on les gardera pour la fin, du coup, à ce niveau-là, ce qui permettra d'enchaîner plus rapidement les interventions de chacun et de pouvoir essayer d'avoir le temps de discussion le plus long à la fin au niveau des questions. Et en fonction du temps qui nous restera, peut-être qu'on fera passer les micros dans la salle et on retiendra les questions et les intervenants y répondront une à une. Ah, je vous laisse la parole du coup.
Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Mohamed Chetouani, je suis professeur à Sorbonne Université dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, et je suis responsable d'une équipe qui s'appelle PIROS, qui veut dire perception, interaction et robotique sociale, et sociale avec un S. Et donc, je vais vous parler un petit peu donc, je suis plutôt du domaine de la robotique, mais on a une équipe qui est pluridisciplinaire où on travaille depuis des années dans le champ de la santé mentale en général, mais plus spécifiquement dans le champ des troubles du développement ou du neurodéveloppement. Donc, ça, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais on travaille aussi également, on a des projets aussi en gériatrie. Pour commencer, en fait, je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'on fait. Dans l'équipe et ce qui nous intéresse. Donc pour voir un petit peu ce qu'on a ici, c'est une interaction sociale. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est notre matériel, c'est un peu l'interaction sociale. Donc c'est deux individus qui interagissent. Donc ces individus produisent ce qu'on appelle des signaux sociaux. Donc ils vont produire par exemple des vocalisations, des gestes, des expressions faciales. Et chaque signal, en fait, a à peu près sa propre, finalement, dynamique. Donc, si j'étudie des expressions faciales, c'est complètement différent du geste. On va se retrouver avec la parole qui est encore différente. Donc, on va se retrouver avec des signaux qui vont être de nature très différente. Et ça va poser des problèmes qu'on va voir après sur des traitements, notamment quand on veut faire des traitements automatiques. Mais en réalité, même si on ne fait pas de traitement automatique, la nature de ces signaux est déjà complexe. Si on les étudie en psychologie, en neurosciences, on a déjà, en fait, un problème de modalité. Ensuite, si je commence maintenant à faire un peu plus compliqué et m'intéresser à l'individu, et l'individu, en fait, ce n'est pas une modalité, c'est plusieurs modalités. Donc, par exemple, quand on parle et on fait des gestes, ça commence à être compliqué à analyser. Et donc là, on a une dynamique qui est assez spécifique, qu'on appelle la dynamique de l'individu. Celle dont je vais discuter un petit peu aujourd'hui, c'est plutôt celle qu'on pourrait appeler interpersonnelle. Et là, je donne un exemple, c'est faire une réponse en regard de quelqu'un qui pointe, par exemple, l'attention conjointe. Tout à l'heure, en arrivant, j'entendais ce mot-là. C'est typiquement ce genre de situation. Et là, c'est complexe, en fait, à analyser parce qu'on peut éventuellement changer de modalité. On va avoir des signaux qui vont être assez complexes. Alors, je ne vais pas parler d'autres dynamiques. Il y en a plein d'autres. Hein. Par exemple, le groupe. Ici, je vais m'intéresser à la diète, mais le groupe est une forme de dynamique, la société également. Alors pour analyser ça, depuis des années, en fait, on fait quelque chose qui est assez simple, pas seulement en informatique ou dans l'interaction humain-machine, en réalité, dans plein de domaines, on fait à peu près ça. C'est ce qu'on pourrait appeler un modèle télégraphiste, en fait. On considère qu'il y en a un qui va émettre des signaux et l'autre qui va recevoir, et en recevant, il va répondre de manière assez télégraphiste. C'est pour ça qu'on appelle ça le modèle télégraphiste. L'avantage, c'est que c'est simple, en fait, c'est très simple à comprendre. On est bien dans un mode, on va être dans un mode émission, dans un mode réception, et ensuite, on va renvoyer l'information. Alors, bien évidemment, ça ne marche pas, ça. En fait, c'est impossible que ça marche pour plein de raisons. On va en évoquer quelques-unes, mais il y en a plein d'autres. La première, c'est qu'il y a une dépendance, en fait, entre les gens. Il y a une vraie dépendance entre les individus. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Il y a aussi cette idée de rôle, quand même. Les rôles sont quand même importants, qu'ils soient explicites ou implicites. C'est très, très important. Dans les présentations, par exemple, ici, il y a quand même cette idée de rôle, hein, de jouer un rôle, prendre une interaction, des interactions qui nous intéressent beaucoup, thérapeute-enfant ou parent-enfant. Il y a quand même cette idée de rôle dans cette interaction-là, et ça joue sur la nature des signaux. C'est transactionnel dans le sens où, en fait, je ne sais pas si on voit... Oui, si, oui, on n'a pas de pointeur, mais vous voyez au moins mon curseur. En fait, quand on considère qu'il y en a un qui émet, l'autre qui reçoit, donc c'est évident que le locuteur ici est en train de communiquer, donc c'est évident parce qu'il y aura sûrement de la parole. C'est moins évident que celui-ci, en fait, il est aussi en train de communiquer. Il n'est pas en train de parler, on n'a pas besoin de parler, en fait, et c'est la même chose qui se passe ici. Donc moi, je parle, mais en fait, vous communiquez aussi. Je vois plein de gens qui me regardent, qui font des back-channels. C'est très important, en fait, cette communication. Si elle s'arrête, c'est très, très compliqué, en fait, dans l'interaction. Donc ce mode de dire « je communique pas », ça ne marche pas, en fait. Et donc nous, on considère, nous, dans mon équipe, depuis des années, on considère que c'est plutôt des humains connectés, mais en réalité, dans plein d'autres domaines, et vous allez le voir, je vais vous en parler un petit peu après, on parle de connexion. Et ce qui va m'intéresser, ce qui nous intéresse, c'est de parler et d'étudier un petit peu comment on peut connecter. Et vous allez voir après le lien avec la robotique. Alors déjà pour ça, désolé, la qualité n'est pas très bonne ici parce qu'on vient de faire un transfert de Mac à Windows et ainsi de suite, mais normalement vous allez reconnaître un petit peu de quoi on parle. En fait, ce qu'on utilise, ce sont des signaux sociaux, du non-verbal, de la posture, de l'expression faciale, mais on s'intéresse essentiellement au fait que ça soit mutuel, dynamique, interactive. Et en fait, ce sont des concepts clés dans plein de domaines. Là, j'ai mis en psychopathologie, en interaction sociale et en interaction humain-machine, en fait. Dans l'interaction humain-machine, en réalité, on a des concepts qui sont très, très similaires. On utilise les mêmes signaux. On a ces mêmes problématiques de dynamique. Alors, pour vous illustrer un peu cette dynamique, il y a une vidéo que peut-être que vous connaissez. C'est une expérience qui est très connue en psychologie développementale qu'on appelle Still Face. Je vais vous la lancer, mais juste avant, je vous explique un peu ce qui va se passer. Ce que vous allez voir, c'est une interaction donc parent-enfant. Et donc, je fais quelque chose, l'enfant fait quelque chose, on fait des choses ensemble. Et au bout d'un moment, on est là, mais il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus de retour. Donc là, on fait des choses ensemble. Il y a cette dynamique-là. Vous voyez la nature des signaux, la complexité de ces signaux-là. C'est extrêmement riche. Là, j'ai même pas mis le son. Et là, vous avez le still face. Donc là, la mère est là, mais pas de retour. Le bébé essaie de réengager, donc geste de pointage. C'est assez stressant, en fait. Hein. C'est des expériences stressantes pour le bébé de réengager. Et la vidéo s'arrête, mais normalement, l'enjeu, c'est de revenir, de réengager. Et ici, c'est très intéressant, en fait, ce genre d'interaction, parce qu'on a cette dynamique, on va stopper ou on va détruire d'une certaine façon, de manière très artificielle, la dynamique, et ensuite, on va la réengager. Alors, en fait, ce qui est très intéressant dans ces expériences de still face, en fait, si vous prenez une machine, vous avez aussi les mêmes expériences, en fait. Très souvent, on a des machines où on est dans une expérience de still face, on ne sait pas ce que fait la machine. Quand on ne sait pas trop ce qu'elle fait, la machine, ça ressemble beaucoup à un still face. On est là, on essaie de faire produire des signaux, mais l'autre ne produit pas de signaux. Et donc, toutes ces interactions-là nous intéressent énormément. Alors, je vais peut-être la stopper celle-là, mais ce que je vais... ce qu'il faut, je ne vais pas rentrer énormément là-dedans, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans ces interactions-là, en fait, il y a plus que les choses que l'on voit. Et c'est notamment très important quand on utilise des machines, parce que dans les machines, on va juste voir ce qui est observable, en fait. Et encore, on n'observe pas tout, on n'arrive pas à tout observer. Là, je mets deux exemples de travaux, parce que c'est des travaux qui avec des gens avec qui on a collaboré, et aussi parce que c'est des dimensions qui peut-être sont assez parlantes. Un premier travail, c'est le travail qui a été fait à la Pitié Salpêtrière dans l'équipe de Jacqueline Nadel, avec Guillaume Dumas. C'est un travail assez intéressant où les gens ont essayé d'analyser l'activité en communication. Et donc, c'est une activité très simple. C'est des mouvements de main. On fait une interaction de mouvements de main où on se synchronise. Et l'idée, c'est que derrière, on synchronise aussi des activités cérébrales. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas. On va voir les mouvements de main en synchronisation, mais on ne va pas voir l'activité cérébrale. Et pourtant, elle existe. La même chose si on prend une dimension qui est plutôt hormonale ici. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'ocytocine. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails du rôle de l'ocytocine, mais c'est une hormone qu'on sécrète de manière très naturelle. On lui prête pas mal de vertus, notamment dans la relation sociale. L'intérêt de cette hormone, c'est qu'on peut aussi l'apprendre en réalité de manière artificielle, sous forme de spray. C'est pas du tout, c'est faisable. Et c'est ce qui se fait dans cette expérience-là. C'est une expérience parent-enfant, donc c'est plutôt père-enfant. Et les collègues, ce qu'ont fait les collègues, c'est plutôt de donner seulement au père n'y a rien qui est donné à l'enfant. Et ce que vous voyez, c'est une sorte de qualité de l'interaction qui est améliorée, c'est-à-dire plus de toucher, plus de réciprocité, plus de regard social, plus de manipulation d'objets. Donc ça, c'est une dimension qui est assez intéressante en termes d'analyse, parce qu'on va se retrouver avec des problématiques. Finalement, une interaction sociale, là, je mets que quelques exemples, mais en fait, c'est d'une complexité folle, en réalité, en termes de modélisation. Alors, si on dit que ce n'est pas seulement des comportements, en fait, c'est juste pour montrer deux domaines, mais il y en a d'autres, hein, où il y a cette idée quand même de connecter. Je ne sais pas si vous connaissez Two Body Neuroscience, c'est typiquement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Peut-être que vous connaissez plutôt Social Neuroscience, donc neurosciences sociales, où c'est plutôt on met un stimuli social, par exemple des expressions faciales, et on analyse l'activité cérébrale. Ici, dans Two Body Neuroscience, on analyse les deux cerveaux, c'est-à-dire les deux personnes qui interagissent en hyperscanning, les deux en même temps. Et c'est ce qu'on retrouve, c'est comme ça que les collègues ont retrouvé ces idées de synchronisation. Il y a un autre domaine qui me plaît bien aussi, qui est intéressant, qui est lié à ce que je viens de présenter sur les hormones. Dans l'expérience où on donne de l'ocytocine au père et rien à l'enfant, naturellement, on voit un taux d'ocytocine qui est augmenté chez le père et on n'a rien donné à l'enfant, mais le taux d'ocytocine s'est synchronisé. On a une synchronisation biologique. Et ça, c'est assez impressionnant parce qu'on le retrouve dans pas mal de choses. Hein. Par exemple, prosodie de la mère et le rythme cardiaque du bébé. Il y a énormément de choses qui montrent qu'on est capable de se synchroniser sur des signaux finalement assez différents. Alors, il y a aussi l'aspect temporel. Je vais pas remettre la vidéo de Stilfest, mais vous avez bien compris que le temps est très important en fait dans ces coordinations-là. Pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, quand on analyse des comportements, on parle de secondes. Donc, c'est ce que vont être capables d'analyser quand on le fait en vidéo, mais aussi quand on va le faire automatiquement. On va se retrouver à peu près autour de secondes. C'est assez complexe sur ces phénomènes-là. Si on veut analyser au niveau cérébral, on va se retrouver sur des millisecondes. Les hormones, ça met beaucoup plus de temps. C'est de l'ordre de minutes pour avoir ces synchronisations. Alors, je vais. Ce que je voudrais vous montrer, c'est plus comment on fait actuellement pour développer et analyser tous ces comportements. Alors, vous avez ici les signaux qu'on étudie, vous avez des exemples d'agents virtuels, des robots. En fait, il y a plusieurs domaines qui sont liés. On utilise des mots un petit peu différents. Par exemple, traitement du signal social, c'est du traitement du signal et c'est du signal social. Donc, c'est vraiment les deux en même temps, c'est-à-dire analyser des signaux sociaux, des comportements de manière automatique. On va retrouver de la robotique sociale, donc c'est des robots qui vont être en interaction avec des humains. On va trouver affective computing, donc de l'informatique affective, on pourrait dire, où l'idée c'est de pouvoir analyser automatiquement, par exemple, des émotions. Mais en fait, on parle tous d'intelligence sociale. Vous avez sûrement entendu parler d'intelligence artificielle. Là, l'intelligence artificielle, on va se retrouver beaucoup. Alors, on utilise des techniques qui sont souvent très similaires quand même, mais c'est quand même un champ un peu différent. On n'est pas dans la résolution de problèmes. On n'est pas dans la résolution explicite de problèmes. On n'est pas en train de jouer à un jeu avec une intelligence artificielle et essayer de résoudre un problème. On est dans de la communication sociale. Alors, on pourrait dire que la communication sociale, c'est aussi résoudre des problèmes à chaque fois. C'est aussi vrai d'une certaine façon. Mais en réalité, ce qu'on cherche à faire ici, c'est prendre tous les signaux, les observer, essayer d'inférer des informations qui sont finalement assez subjectives, mais on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire les collègues qui vont générer des comportements sur un agent virtuel font exactement l'inverse, c'est-à-dire ils se disent est-ce qu'on peut générer un comportement qui va nous donner des informations sur le social. Alors je voulais juste vous l'alerter, je ne vais pas sur des problématiques et un peu de la méthodologie. Ici, c'est typiquement ce qu'on peut faire. Imaginons que cette expérience-là, ce sont des humains qui interagissent et qu'on s'intéresse au stress. Pour prendre un exemple concret, imaginons qu'on veuille détecter le stress dans une interaction. Comment on va faire? On va enregistrer les gens, donc il y a toute la question de savoir quel est le stress, quelle situation, c'est très compliqué, il n'y a pas de définition complètement générique de ce qu'on va retrouver dans le stress. Néanmoins, on va quand même se poser la question, est-ce qu'on peut le détecter automatiquement ? Donc il y a déjà un biais de quelle était la situation. On va se retrouver avec des signaux qu'on va pouvoir mesurer, c'est-à-dire un ensemble de signaux, de la vidéo, de l'audio, pour faire simple. Ensuite, vous allez avoir toute votre machine, c'est-à-dire tout votre algorithme qui va apprendre, donc qui va prendre ces exemples-là, ces vidéos-là, essayer d'apprendre. Mais le problème, c'est qu'il faut lui dire où était le stress, où n'était pas le stress. C'est-à-dire qu'il faut lui donner des exemples qui soient bien labellisés, bien étiquetés, on peut lui donner. Alors, c'est là où ça commence, on va avoir des soucis, c'est-à-dire à qui on demande et comment on sait que le stress a commencé et fini. Et là encore, je parle de binaire. En réalité, ce n'est pas binaire. C'est bien évidemment pas binaire. Il y a bien évidemment des niveaux de stress. Et peut-être que votre niveau n'est pas mon niveau. Enfin, il y a toutes ces questions derrière qui sont complexes. Donc, il y a des approches où on va, par exemple, apprendre la machine en demandant à l'utilisateur. Donc du à la personne qu'on est en train d'analyser, c'est-à-dire du self-assessment, on va lui demander. Et donc vous voyez bien que si je fais ça, ce sont les mêmes vidéos, mais je vais faire du self-assessment. Je vais aussi peut-être demander à des observateurs extérieurs de regarder la vidéo et d'évaluer le niveau de stress. Donc je vais peut-être obtenir des contradictions, éventuellement. Aujourd'hui, le self-assessment, c'est une personne, parce que c'est la personne concernée à qui on demande. L'observation, on peut tout à fait le faire. Et maintenant, avec les méthodes modernes, c'est très facile de faire une centaine de personnes, des milliers de personnes qui regardent la même vidéo. Donc on est déjà sur des enjeux qui sont différents. On pourrait se dire, mais en fait, sur le stress, c'est pour ça que je prenais l'exemple du stress, on pourrait complètement abandonner des questionnaires et plutôt faire des signaux physiologiques également. Mais tout ça pour dire que, normalement, quand on devrait présenter nos résultats, on devrait pouvoir dire dans quelle situation c'est présenté. Quand on vous dit, j'ai détecté automatiquement telle émotion, tel stress, telle expression, il faudra être capable de dire, oui, on arrive à analyser des signaux dans certains comportements. Alors, du coup, ces idées d'individus et de communication, il va falloir les analyser de manière automatique. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est déjà de se dire quelles sont les définitions qu'on va se donner. Alors, si on prend assez simplement la question de la dynamique, en fait, ici, pour faire simple, vous avez énormément de définitions autour de ça. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur un humain qui interagit avec un autre humain et que ce sont des humains connectés, en fait, on a énormément de phénomènes qui rentrent dedans. Alors, je vais juste vous prendre une définition parce que je l'aime bien et qui nous parle souvent dans... Alors, Bernieri, c'est une définition qui vient de la psychologie. Hein, et ici, c'est une définition qui nous parle, je vais dire, en tant que roboticien et de gens qui vont traiter des informations. Déjà, ça commence par degré. Degré, ça veut dire que ce n'est pas binaire. C'est-à-dire, quand on fait des modèles informatiques, ça veut dire que ce n'est pas oui-non, en fait. Et c'est la réalité des choses. C'est-à-dire, quand on prend une interaction, ce n'est pas bien ou pas bien, en fait. C'est plus compliqué que ça. Ce sont des comportements en interaction. Et là, c'est vraiment fait pour les informaticiens, j'allais dire. C'est pas aléatoire et il y a des formes. C'est-à-dire que ça, on va pouvoir extraire des informations. Et c'est synchronisé, on l'a vu, dans le temps et la forme. Les deux sont très importants. Alors, je vais vous parler d'une expérience pour vous expliquer. Pour vous expliquer ce qu'on a fait sans rentrer dans les détails techniques. Alors, je ne sais pas si on en voit. Non. La vidéo ne marche pas. Mais ce que vous devriez voir dans cette vidéo, c'est une interaction, en fait, des actions conjointes, c'est-à-dire on construit ensemble. Donc là, c'est une sorte de puzzle 3D où il y a un clown et une grenouille. On doit construire ensemble. Donc c'est une expérience qu'on a fait avec des enfants, avec des troubles du développement. Et l'idée, la question qu'on s'était posée, c'est est-ce qu'en analysant ces vidéos-là, on est capable de détecter automatiquement ou de prédire automatiquement l'âge développemental de l'enfant ? Okay. L'idée, c'était de faire ça. Est-ce que ça se voit dans une interaction ? Donc, on l'a fait. Je vous passe tout ce qu'on a extrait donc de la vidéo, du comportement. Donc, attention, on s'intéresse bien à l'enfant. C'est l'âge développemental de l'enfant. Donc, on prend naturellement les paramètres de l'enfant, c'est-à-dire la quantité de mouvement, la posture. Mais en fait, quand on a fait ça, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas du tout. Ça n'a pas bien marché. Mais ce qui est intéressant avec les machines, c'est qu'on peut inverser le problème. On s'est dit, dans cette histoire d'interaction, en fait, l'enfant n'est pas tout seul, il est en interaction. Et cette fois-ci, on prédit toujours l'enfant, mais on regarde le thérapeute. Okay, c'est vraiment, d'un point de vue informatique, ce n'est pas très compliqué à faire. Mais c'est très intéressant d'un point de vue interaction et compréhension de la communication. Et là, ça a très, très bien marché. Alors, je passe les détails de pourquoi, on pourra en discuter après, mais en vérité, c'est très intéressant quand on discute avec les cliniciens de pourquoi. Parce que là, vous avez des cliniciens qui vont s'adapter. Hein, je suppose qu'on est aussi dans la bonne journée pour discuter ce genre de questions. On a des cliniciens qui vont s'adapter, en fait, qui vont vraiment s'adapter à l'enfant. Et en fonction des difficultés de l'enfant, vous allez le voir, en fait, dans le comportement des cliniciens. Pour la petite histoire, il y a des collègues qui ont fait la même chose en Suisse avec des entretiens d'embauche. Donc, ils ont utilisé à peu près les mêmes techniques que nous. Ils ont des vrais entretiens d'embauche. Ils ont cherché à détecter si on pouvait prédire automatiquement si on allait embaucher quelqu'un ou pas. Ils ont trouvé le même résultat que nous, c'est-à-dire qu'on peut, il suffit pas, enfin, pas besoin de regarder celui qui postule, mais celui qui interview. En fait, on a énormément d'informations là-dessus. Alors, je vous passe cette vidéo, on pourra en discuter après, si vous voulez, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, pour venir à la robotique, pour vous expliquer le robot, comment on l'utilise chez nous, dans l'équipe, c'est assez simple. En fait, aujourd'hui, c'est un protocole qu'on a fait il y a quelques années, de manière un petit peu, j'allais dire, provocatrice, on l'a appelé robot-centré, parce que tout le monde parle d'humain-centré. Mais humain-centré dans la robotique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, on va comparer des interactions avec des humains et on est content quand l'interaction avec le robot est la même que l'interaction avec l'humain. C'est ce qui se passe très souvent en robotique ou dans les agents. En fait, il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça. En réalité, il n'y a pas de raison qu'une interaction avec un humain soit la même avec un robot. Nous, on a voulu faire robot-centré dans le sens que le robot-centré, pourquoi? Parce que le robot, il a l'avantage de pouvoir interagir de manière identique avec chaque personne. Et ça, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est de se dire, on va utiliser le robot comme un moyen de mesure. Okay? L'idée, c'est de pouvoir faire la même interaction avec un tel et un tel, et ensuite, de pouvoir mesurer les interactions. Alors, qu'est-ce qu'on appelle mesure? Bon, je vous passe comment on le fait. Le mieux, c'est que je vous montre concrètement comment ça fonctionne. Ici, on l'a fait avec une tâche où, d'habitude, avec les enfants qui ont des troubles du développement, on considère souvent qu'on va développer des robots pour aider les enfants. Nous, ce qu'on a fait depuis quelques années, c'est qu'on s'est dit, pour les aider, en fait, on va faire l'inverse. On va demander aux enfants d'enseigner aux robots. On va demander aux enfants d'enseigner aux robots. Des tâches très classiques, hein, d'imitation. On l'a fait à l'attention conjointe. Là, je vous le montre sur l'imitation. Donc, c'est des tâches très, très classiques. Donc là, on demande à l'enfant d'enseigner aux robots. Alors là, ça a beaucoup d'avantages. Ça a l'avantage que le robot, c'est toujours le même pour tout le monde. Et l'autre avantage, c'est aussi que l'enfant enseigne au robot. Donc, il y a cette côté, je dois mobiliser, c'est du learning by teaching, c'est-à-dire on apprend en enseignant. Donc, on doit bien maîtriser les postures. On le fait sur l'écriture, on pourra en discuter après. On le fait sur pas mal de tâches. Là, c'est de la posture parce que c'est très visible. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'enfant voit le résultat aussi. Donc, si le robot ne fonctionne pas, en fait, l'enfant doit s'améliorer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Oh oui, c'est mieux sur la figure ici. Alors, je vous passe ici, c'est un réseau de neurones, mais complètement artificiel, ce qu'on a développé. Mais l'avantage de la technique qu'on a développée, c'est qu'elle est capable de s'adapter à la personne. En fait, elle est complètement capable de s'adapter aux individus. Et ici, vous avez le temps. Okay, vous avez vraiment le temps des expériences. Et ici, vous avez la complexité de l'algorithme. Donc, ça veut dire que, en rouge, c'est des adultes. En vert, ce sont des enfants typiques. Donc, ça veut dire que plus le temps passe, bien évidemment, on rajoute des gens, donc la complexité est plus grande. Mais ce qui est intéressant, c'est que la morphologie ne change pas trop, c'est-à-dire adulte ou enfant ne change pas trop. Par contre, ici, si vous placez à un instant donné, ça veut dire que pour le même nombre de personnes, en fait, le robot a besoin d'une complexité plus importante. Ça veut dire que pour apprendre exactement la même chose, le robot a besoin d'une complexité plus importante. D'où ça vient? En fait, ça vient du fait que les robots, en fait, pour bien enseigner, il ne faut pas faire trop de variabilité. Et la variabilité n'est pas bonne quand on enseigne. Il faut vraiment enseigner de manière très efficace et de manière très précise. Alors ça, c'est intéressant. On pourra discuter après des théories de voir pourquoi, en fait, les enfants avec troubles du développement n'ont pas cette stabilité. Il y a pas mal de théories autour des micro-mouvements, de la stabilité. Il y a des questions aussi cognitives derrière. Alors, bon, je vais passer là-dessus, sur ce slide-là, parce que c'est la même expérience, mais on a cherché à aller un peu plus loin, parce que là, ce que je vous ai montré, c'est qu'un robot est capable de reconnaître, finalement, on ne lui demande pas de reconnaître les groupes, est-ce que c'est les groupes cliniques, mais finalement, il est quand même sensible aux groupes cliniques parce qu'il apprend en interaction. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin et travailler? On a fait un travail avec Andrew Meltzoff, que vous connaissez peut-être, sur de la psychologie et sur de l'imitation. En fait, on s'est posé la question de est-ce qu'on peut démontrer les hypothèses de relations sociales et d'imitation. C'est-à-dire, est-ce que l'imitation est pas seulement une question qu'on pourrait appeler en robotique d'apprentissage de tâches, est-ce que c'est pas aussi créer un lien social? Quand on s'imite, est-ce qu'il n'y a pas ce lien social? Et donc, ce qu'on a voulu faire comme expérience, c'est de se dire, on va demander à un robot d'apprendre seulement des postures, et est-ce qu'il est capable pas de reconnaître également les individus? Et donc ça, c'est ce qu'on a fait dans cette expérience-là. Donc on a fait une expérience où on est capable de reconnaître les gens juste dans la façon dont ils imitent. Alors c'est quelque chose que vous connaissez peut-être sûrement. Quand il y a quelqu'un dans le couloir qui marche, que vous connaissez, vous le reconnaissez. Okay, il y a cette idée de mouvement et d'individualité. Là, c'est exactement la même chose. Le robot, finalement, est capable de capter, de mesurer une signature très individuelle. Alors, comme très souvent en science, on est obligé parce que ça, c'est des données qu'on a collectées et on a fait le modèle. Donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est aussi faire notre modèle sur d'autres données. Donc, on a des données avec expression faciale, notamment, dans un autre laboratoire. Et on a fait la même expérience avec des données qui sont agents virtuels. De toute façon, j'ai fini. Non, ouais. Alors, il y a d'autres choses que je n'ai pas évoquées du tout ici. Qu'on pourrait, par exemple, l'acceptabilité, l'expressivité, juste la compréhension même de la transparence de cette machine-là. Il y a énormément de choses derrière qu'on essaie d'étudier dans l'équipe. Mais ce que je voulais surtout expliquer, c'est cette idée vraiment d'utiliser le robot comme un outil scientifique, en fait. Ici, on n'utilise pas encore dans la thérapie, on l'utilise vraiment en disant, est-ce qu'on peut... Alors, bien évidemment, on l'utilise parfois en thérapie, mais c'est très compliqué, je pense, dans le champ de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement, de vraiment passer à ça. Mais déjà, ne serait-ce que de mieux comprendre la pathologie, c'est déjà pour nous un résultat important. Voilà, du coup, je vais peut-être finir juste sur ces points-là. C'est qu'aujourd'hui, on est quand même capable de mesurer un certain nombre de signaux sociaux. Il faut quand même être vigilant sur la méthodologie. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure je voulais vraiment... Il faut vraiment comprendre la méthodologie. Et je pense qu'il n'y a pas assez de discours autour de comment on a développé ces machines-là. Et qu'il y a vraiment cette idée entre les questionnaires les questionnaires nourrissent énormément nos machines. Et souvent, en intelligence artificielle, on prend... comme si c'était vrai, mais prenons un test. Je pense que là, avec les collègues en psychologie, vous savez très bien que les questionnaires, c'est pas la vérité, c'est aussi une vérité, mais c'est pas la vérité. Et derrière, il est quand même important, et je reprends aussi le travail de Meltzoff, notamment dans l'apprentissage, de relier, en fait, et ça, moi, c'est pour ça que je suis content d'assister très souvent à ce genre de journée, de confronter ces domaines-là, en fait, de la psychologie, de neurosciences, sciences de l'éducation, et ainsi de suite. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je pense qu'on va prendre une discussion.
Merci beaucoup Mohamed Chetouani pour cet exposé très intéressant. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Pierre et Marie Curie et directeur adjoint du LabEx Smart Human. Juste petite précision que je trouvais intéressante d'ajouter très rapidement. Mohamed Chetouani vous a montré des expériences de Still Face et c'est très intéressant. Et surtout, il faut savoir qu'il y a à peu près 2-3 ans maintenant, une étude est sortie et montre que des parents qui utilisent un smartphone proche de leur enfant, en étant focalisés sur le smartphone, auront le même impact sur les bébés en fait que s'ils étaient en position de Still Face. Donc, ce qui montre bien en fait qu'une technologie qui pourtant est faite pour communiquer, le smartphone, peut très bien également faire une coupure dans la relation et que c'est donc vraiment pas seulement la technologie mais l'usage qu'on en fait qui permet en fait de créer du contact, du lien et donc bien penser à faire en sorte que la nouvelle technologie soit humanisante et socialisante et pas seulement en fait humanisée et simulante on va dire. Je vais maintenant laisser la parole à Rémi Potier, du coup, qui va nous parler du virtuel au service du soin. Et donc, je rappelle que Rémi Potier est docteur en psychopathologie et maître de conférence à Paris 7. Et il est aussi dans le laboratoire CRPMS.
Merci beaucoup. Donc, merci aussi pour m'avoir invité à vous parler de ce sujet qui nous passionne tous de manière à la fois différente et complémentaire, je crois. Alors, je vais un tout petit peu reformuler peut-être le titre parce que je me dis que finalement, ce dont je voulais vraiment parler par rapport à ce thème, c'est la question du virtuel au service du soin et de la recherche clinique dans le cadre de la santé mentale exclusivement. Parce que finalement, c'est très vaste. Et si on prend le virtuel au service du soin, moi, ce dont je suis compétent pour parler, ce sera précisément dans ce contexte-ci. Et je crois que ce contexte-ci est nécessaire, enfin, est spécifique si on le compare aux autres champs de la santé donc, et du soin. Donc c'est cette spécificité-là, d'ailleurs, qui me fait rejoindre ce que vient de dire Olivier Duris, tout à fait, c'est que en fait, ça va être la créativité des soignants et des thérapeutes dans le cadre de leur utilisation qui fera la différence, mais aussi la reconnaissance de ce que ceux qui traitent les problèmes psychiques ne sont pas tout à fait la même chose que des problèmes strictement comportementaux. Alors ça, c'est une hypothèse que je tiens à évoquer d'emblée, puisque je ne suis pas dans une représentation de la santé mentale qui soit exclusivement liée au comportementalisme. Donc la question, c'est l'implication du numérique dans notre contemporanéité, finalement, qui se pose et qu'on se pose tous ensemble. Hein, ça a été tout à l'heure rappelé par Serge Tisseron. Il y a en même temps qu'un enthousiasme, une nécessaire vigilance à avoir dans ces utilisations. Donc c'est donc depuis la place que je cherche à dégager dans mon propos, la question du périmètre de l'usage du numérique à travers l'apport d'une réflexion finalement qui ne peut être, si on s'attache au numérique, que interdisciplinaire, c'est-à-dire que pour le dire différemment, la psychanalyse à laquelle je me réfère n'a pas les concepts, la boîte à outils pour penser tout ce qui concerne, n'a pas les outils pour penser ce qui concerne directement le numérique, il faut qu'elle le pense en interaction là aussi en délimitant la condition de possibilité de son discours et de son expérience. Donc, c'est comme ça que j'essaye de construire les choses, c'est-à-dire en interaction interdisciplinaire, tout en essayant de creuser, de montrer ce que peut, ou pas d'ailleurs, apporter la psychanalyse dans ce contexte, voire même ce que ce contexte peut apporter aussi comme modification, à la fois conceptuelle et pratique, à la psychanalyse. Et ça, je dirais que bien des exemples ce matin ont pu montrer qu'il y a bien de plein de choses à faire. Donc, le nouvel axe d'orientation... Enfin, j'aimerais vous parler finalement d'un nouvel axe d'orientation dans la clinique actuellement et dans la recherche, qui témoigne des enjeux de soins à la fois et de recherche de prévention par ailleurs. Je vais vous parler d'une nouvelle méthode qui émerge, je dirais, depuis 4-5 ans et qui prend le relais de plein d'initiatives dans ce genre qui ont à peu près une vingtaine d'années, qu'on appelle le digital phénotyping. Et finalement, je trouve assez proche de ce que vous faites aussi d'une certaine façon, mais avec la particularité, le digital phenotyping, de partir de ce que nous sommes tous massivement des utilisateurs de téléphones portables, smartphones, pour pouvoir justement essayer d'avoir des modalités d'observation en temps réel de l'individu et donc de peut-être, entre guillemets, faire évoluer l'observation clinique des patients. Excusez-moi, parce que je suis assez pris. Donc, comment à la fois situer ce projet de digital phénotyping dans un contexte d'évolution intéressant, d'une part, peut-être, et de ce que peuvent permettre les nouveaux outils et des modifications sociétales. Et puis, par ailleurs, qu'est-ce qui, dans le champ de la santé mentale, devrait être un petit peu questionné, ce qui ne va pas de soi en l'occurrence. Pour ça, je pense qu'il faut un petit peu contextualiser. Déjà, d'une part, là où on en est, du champ de la santé mentale au niveau théorique, au niveau, je dirais, international, enfin, les grandes lignes, on va dire, pour essayer de voir ce qui émerge aujourd'hui, comment l'appréhender, est-ce que c'est si révolutionnaire que ça, comment faire avec cet enthousiasme, et essayer de voir aussi comment les controverses récentes au sein de la santé mentale peuvent nous permettre d'appréhender les choses de façon plus sereine. Peut-être, pour le dire autrement, comment nous aussi, comme les machines le font finalement, pouvons-nous apprendre de certaines erreurs qui ont pu être, ou excès d'erreurs qui ont pu être à l'œuvre ces dernières années. Je pense finalement à l'idée, pour le dire clairement, qu'on pourrait aborder l'idée, le fantasme, selon moi, l'idéal, qu'on pourrait aborder les problèmes de santé mentale de manière exclusivement réductionniste, qu'on pourrait trouver une solution causale linéaire au problème de la santé mentale, c'est-à-dire une origine génétique, une origine exclusivement neurodéveloppementale. Voilà. Il y a quelque chose qui résiste à la causalité linéaire dans le cadre de la santé mentale, qu'il faut absolument repérer et que chaque sous-discipline, je dirais, de psychologie devrait repérer comme étant fondamentale pour justement travailler en complémentarité sans être dans une croyance peut-être un peu démesurée à ce que justement il n'y a qu'une façon de voir les choses. Il y a beaucoup de points à éclairer selon des méthodes différentes. Donc de ce point de vue-là, je dirais que la compréhension des troubles psychiques ces derniers temps, dans la nomenclature des revues américaines ou des grandes revues internationales, il y a une volonté, je dirais, qui n'est pas de hier, de trouver la capacité de fonder les recherches en santé mentale sur des critères qui soient aussi certains que ce que la médecine peut parvenir à faire, notamment à travers un idéal qui s'appelle l'evidence-based medicine. Bon. Alors, il est clair, et ça, les scientifiques de tous bords le disent, il n'y a pas un registre de la preuve en santé mentale qui soit du même degré de qualité que dans, par exemple, la génétique ou dans le cadre d'autres développements scientifiques, biologiques ou médicaux. Donc, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à dire à ce niveau-là, évidemment. Mais ça veut dire qu'en tout cas, les résultats sont moins probants, moins qualitativement probants. Il y a des choses qui résistent. C'est ça qu'on pourrait considérer. Donc, notamment, des publications récentes invitent, là, aujourd'hui, à prendre un recul important par rapport, je dirais, à des promesses énoncées. Et il faut quand même aussi apprendre de ce que 20 ans de publications, de millions de dollars, pour le dire comme ça, qui ont été dépensés par rapport à certaines méthodes, pour promouvoir certaines découvertes, ça devrait nous alerter. En l'occurrence... Il faut que j'aille un peu vite parce que ça, c'est trop préliminaire. Mais en l'occurrence, il y a une étude publiée dans Science, dans Nature, pardon, il n'y a pas longtemps, qui montre que la découverte selon laquelle le gène 5-HTT-LPR, qui est un gène qu'on a identifié comme étant impliqué dans la dépression, tout cela a vraiment été énoncé de manière très tonitruante des 20 années de publication, etc. Et là, il y a une équipe de 600 généticiens qui reprend toutes ces études et qui montre que c'est le problème aussi de ce que l'on peut faire du point de vue quantitatif dans notre champ, qu'il faudrait, pour prouver que ce gène a une implication dans la dépression, 34 000 cas. Voilà, pour une étude fiable, pour que ce ne soit pas un faux positif. Bon, là, il y a une leçon aussi en termes de statistiques. Il y a cette, alors, je ne sais pas si on aura là aussi cette possibilité, depuis notre méthodologie et nos approches, de produire des études avec ce degré de fiabilité. En revanche, on a peut-être d'autres modalités de scientificité à faire valoir. Donc j'en viens tout de suite à la question... Il y a eu des études qui ont montré ces derniers temps tout à fait ça. Il y a une controverse aussi dans le cadre de la santé mentale. D'où on part ? Est-ce qu'on utilise les catégories du DSM ? Est-ce qu'on utilise d'autres formes de catégories ? Vous connaissez tous ces débats. Eh bien, ces débats-là, ils sont aussi très déterminants dans la manière dont on travaille avec le numérique, puisqu'on parle de classifications qui sont préalablement, entre guillemets, pensées dans ce cadre polémique qu'est la constitution des manuels de psychiatrie. Manuel de psychiatrie qui est aussi très controversé aux États-Unis, hein, donc et pas mis à l'épreuve par des psychanalystes. Je pense aussi à des grands méthodologistes comme Ioannidis de Stanford ou Wallen Frances, qui est un psychiatre, pour vraiment attaquer ces modèles-là comme étant problématiques du point de vue des conflits d'intérêts. Donc il faut là aussi à chaque fois être très prudent. Si on modélise des robots, des ordinateurs en fonction de ces paramètres-là qui sont très changeants et très controversés, on finit par rendre auto-réalisées certaines catégories. C'est-à-dire à trouver ce qu'on cherche directement dans le comportement des gens, alors que finalement, ils n'ont pas grand demandé grand-chose. D'autant que le DSM-5 est connu pour pathologiser à peu près tout et n'importe quoi. Donc là, il y a un problème, en tout cas, des signaux à mettre en place dans les recherches interdisciplinaires. Et il faut faire attention et dire aux informaticiens, à tout le monde, que les manuels de psychiatrie ne sont pas des sciences exactes au même titre que bien des... Malgré certaines revendications, d'ailleurs. Donc, pour parler du phénotypage numérique, qu'est-ce qui se passe avec cette possibilité-là ? C'est le fait, et là, on part aussi, finalement, de certains types de robotisation, que nos smartphones, on les a toujours avec nous, et que, par ce biais-là, on peut avoir une observation assez globale du comportement d'un individu. Il y a par exemple trois phénomènes qui intéressent ce type d'investigation d'observation d'un individu. Ça va être les données du téléphone portable classique, à savoir le fait que ça nous localise, que ça montre aussi les interactions sociales qu'on a. On appelle, on discute avec des personnes. Donc là aussi, on peut retracer des graphes par rapport à les entrées et les sorties, et même nom du téléphone portable, les mouvements du corps dans l'espace, etc. Les interactions avec le clavier, le toucher, la manière dont vous êtes rapide ou non à taper, la variation du rythme aussi avec laquelle vous utilisez votre clavier, tout ça, c'est un indicateur de votre forme. Donc, alors évidemment, il ne faut pas fantasmer qu'on aurait tous des... Enfin, il faudrait faire très attention à ne pas normaliser les choses et à chaque fois établir des normes spécifiques à l'individu qui l'utilise, ce qui est assez compliqué, à mon avis, à mettre en place, mais... C'est un des projets. Et l'autre donnée aussi qui est utilisée dans le cadre de la psychopathologie, c'est évidemment la voix, puisque vous parlez à travers votre téléphone. Et donc, il peut y avoir là des algorithmes qui, de la même façon que ce que vous expliquiez tout à l'heure, vont repérer certaines variations de la prosodie et qui peuvent être un indicateur que... Enfin, moi, j'ai rencontré des data scientists qui travaillaient justement sur cette question de la modélisation de la voix, qui était spécialisée à la base en musicologie. Mais justement, par leur spécialisation en musicologie, ils se sont bien intéressés à la modélisation de la voix dans le cadre de la dépression. Alors c'est vrai que le phénotypage numérique, ça intéresse certains types de pathologies. Dans leur utilisation actuelle, alors il y a Thomas Insel, il y a Onella aussi à Harvard qui s'intéresse beaucoup à ces questions. Et évidemment, là aussi, il y a énormément d'annonces tonitruantes. C'est la nouveauté, c'est le renouvellement de la psychiatrie. Et vous entendez dans le phénotypage... numérique, c'est cette appellation de phénotypage numérique. Cet espoir, finalement, de réaliser, de réussir là où il y a eu un échec de la psychiatrie génétique réductionniste pure ou de certains espoirs attendus des neurosciences. Pour le dire autrement, il y a bien des résultats, mais ils ne sont pas au degré des attentes. Et surtout, il y a beaucoup eu d'annonces et de promesses qui ont été établies par rapport à ça. Donc là, on part de projets qui sont aussi très médiatisés dans le cadre de la psychiatrie. Il faut le repérer quand même. Pour autant, ça met le doigt sur une propriété du téléphone portable qui est quand même très intéressante. On ne peut pas le nier. Moi, ce que je trouve questionnable, c'est l'idéal de phénotypage. Est-ce que vraiment... il est heuristique de penser qu'on pourrait, même s'il y a des éléments qui doivent être spécifiques et qui peuvent être connus, est-ce que l'idée d'établir un phénotype comportemental numérique des individus à travers leur téléphone portable est aussi prometteuse que ça du point de vue de la santé mentale? Je pense qu'il faut en interroger la méthode, mais qu'il faut peut-être en abandonner l'ambition. C'est-à-dire l'ambition consistant à essayer d'avoir des phénotypages de masse, dans la mesure, et c'est là où je reviens aux éléments de départ, c'est que la complexité de ce qui est les problèmes de santé mentale n'autorise à mon avis pas à partir d'un tel réductionnisme. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait observer à travers ce type de pratique ne réduit pas l'individu aux traces de ces données. En revanche, il y a sans doute des choses à exploiter, puisqu'il y a des traces comportementales là dont le sujet n'a pas obligatoirement conscience et qui pourrait réinterroger pour lui-même. Et donc, il y a énormément de choses qui pourraient être nourries, même dans un travail thérapeutique, par... la récupération et l'analyse des données issues des téléphones portables. Puisque oui, en effet, le fait qu'ils soient embarqués et toujours avec les patients peut permettre à certains titres de la prévention, etc. Néanmoins, il y a des problèmes éthiques qui se posent, puisque avec cette ambition de prévention, C'est un algorithme très rapidement qui vous dit, avant même que vous en ayez formulé l'hypothèse, que vous êtes déprimé. Ou que vous avez un... Mais alors, par rapport à des paramètres qui peuvent être justement... Et je me demande justement si ce type de tracking, peut être tout à fait... les problèmes éthiques que ça peut engager du point de vue justement de la performation, entre guillemets, de l'annonce quasiment imminente d'un diagnostic par une machine. En dehors justement de tout cadre transférentiel, ce qui n'a pas été le cas de tout ce qui a été décrit depuis ce matin. Il y a toujours du transfert ou de la relation thérapeutique, quels que soient les usages numériques. Là, avec les smartphones, c'est un peu moins le cas. Ou ça peut être le risque, justement, de tout automatiser. Il me reste... D'accord. Donc, via les smartphones, on a un nouveau levier, peut-être, pour développer des éléments nouveaux, des nouvelles connaissances en psychopathologie. Il y a, pourquoi pas, cette hypothèse de base, je la trouve tout à fait juste. Comme je vous le disais, en revanche, aujourd'hui, ça touche plutôt certains types de problèmes. Les addictions, par exemple. Le traumatisme, beaucoup d'études sur la dépression, et évidemment les troubles de l'humeur. C'est-à-dire toutes sortes de choses qui peuvent être tout à fait repérables et, dans le comportement, on va dire. Encore que la dépression, je trouve que c'est très controversable, enfin problématique. L'analyse qu'on pourrait faire des troubles de l'humeur aussi, de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que pour les questions d'addiction et de trauma, on voit bien comment ce type de méthode peut être à la fois heuristique du point de vue de l'observation, mais aussi peut-être du point de vue du soin, en proposant via un système d'alerte ou via un système de suivi des solutions aux individus. C'est déjà ce que proposent les solutions pour arrêter de fumer par application, etc. Sans encore prendre des éléments embarqués. Parce que ce qui fait la particularité d'utilisation du smartphone dans le digital phenotyping, c'est le fait d'utiliser les données non renseignées par le patient, les données sourdes que transporte le téléphone portable à l'insu de la volonté du patient. Là où il y a eu d'autres méthodes et qui sont très intéressantes aussi, et sans doute une des solutions pour faire des grosses études nationales pour récolter beaucoup de données, c'est l'utilisation du téléphone portable du côté des chercheurs aussi, pour renseigner de manière écologique et momentanée ce qui peut se produire juste après. Enfin, c'est utilisé par exemple pour dans des méthodes pour le suivi des patients, la qualité de vie, etc. Il y a énormément de choses dont on peut s'inspirer dans le cadre des psychothérapies ou des recherches en psychopathologie, l'utilisation des smartphones, parce que le fait de pouvoir renseigner certains éléments de manière immanente, tout de suite après une thérapie, etc., c'est tout à fait formidable. Alors, la psychanalyse, par rapport à tous ces éléments, on a entendu de ce qu'on pouvait faire du point de vue de la pratique. Elle pose aussi, enfin, si on regarde un peu la littérature de la psychanalyse par rapport à la question du virtuel, on trouve toujours, je dirais, deux grands axes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la manière dont on peut penser le virtuel, bon, les travaux de Serge Tisseron notamment, par exemple, à partir de l'image, etc. La question, évidemment, de ce qui ça peut modifier du point de vue du psychisme, on peut penser au concept d'extimité, etc., par exemple, mais... ou tous les travaux de Shirley Turkle aussi aux États-Unis, qui sont tout à fait intéressants pour mettre l'accent sur ce que l'on perd aussi, ou les risques que l'on peut avoir à communiquer à travers nos téléphones portables. Ce que tu disais tout à l'heure est fort important. C'est-à-dire qu'un outil comme le téléphone portable peut être quelque chose qui est un vrai brouilleur de communication et qui enferme le patient dans sa bulle. Il n'y a pas que la psychanalyse pour le montrer, mais tous ces éléments-là sont tout à fait à prendre en compte dans les questions de recherche qui impliqueraient les nouvelles technologies, c'est-à-dire quelles sont les spécificités des liens que peuvent nouer justement les patients, enfin les individus avec le numérique. Bon, ça, c'est un des axes de recherche. Et un autre va aussi consister, et ça c'est pas nouveau, un peu rare en France, mais très très développé aux États-Unis depuis les années 70, je crois, 1970, c'est comment utiliser des nouvelles technologies pour justement avoir une nouvelle méthode d'investigation de ce que l'on peut réaliser du point de vue de la psychanalyse, avec l'utilisation de l'informatique pour analyser des verbatims complets de séances, par exemple, etc. Tout ça, ça a été tout à fait travaillé. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, il y a à la fois un souci de repérer, pour le faire très vite, les éléments liés au malaise dans la culture, ce qui est un concept heuristique de la psychanalyse pour essayer d'établir justement le fait que tout ne va pas que dans un sens, dans un progrès positiviste sans fin. Et d'autre part, l'heuristique de la manière dont on peut se saisir de nouvelles techniques pour justement faire avancer le savoir, les investigations, etc. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Donc pour conclure, parce que là, je n'ai pas dit vraiment tout ce que je souhaitais, mais je dirais que vraiment, il y a énormément de choses qui peuvent être tentées à partir de nos pratiques diverses avec l'usage des nouvelles technologies. Et là, je voulais mettre peut-être un accent spécifique sur le téléphone portable, qui est un objet philosophique à part entière. Lisez peut-être Maurizio Ferrari, les mobilisations totales, par exemple, ou pour essayer justement de voir d'un point de vue philosophique ce que ça introduit dans nos vies. C'est pas rien. C'est même vertigineux. On n'en a pas fini d'en penser le changement qui peut-être est aussi important que le passage de la tradition orale à la tradition écrite, hein, par la disponibilité, et le fait qu'on est dans un moment où tout est enregistré. Et ça, c'est quelque chose qui, anthropologiquement, va avoir a déjà des conséquences tout à fait fondamentales. De ces enregistrements par données, on peut en faire quelque chose, et en même temps, il faut énormément protéger, comme vous le savez, les individus. Donc il y a énormément de questions éthiques que je ne vais pas aborder là, mais qui font partie des questions de la littérature, de tous les développements autour des digital phenotyping. Moi, je crois beaucoup plus à l'utilisation de ces données, ces outils, pour faire la formulation de cas un peu fine. Peut-être moins, justement, dans une sorte de recherche, d'analyse des comportements globaux au niveau macroscopique d'une population d'usagers de téléphones portables, mais vraiment pour le coup d'essayer de voir ce que l'on peut tirer dans le partenariat avec le patient, un peu dans les exemples qui ont été donnés ce matin, de vraie participation, pour essayer de voir justement comment aussi certaines données issues du téléphone portable peuvent être ressaisies et travaillées par les patients. Je pense à tous ces moments de séance en psychothérapie où des patients ont pu me parler de leur inquiétante étrangeté. Je pense à une patiente qui parlait de Tinder, par exemple, d'une manière tout à fait intéressante et qui, finalement, interrogeait son comportement grâce à son historique. Et elle s'est mise à avoir une associativité assez intéressante par rapport à son historique. Donc, il y a des choses à intégrer par le fait qu'aujourd'hui, les données prennent une dimension anthropologique tout à fait fondamentale et que nos téléphones portables en sont les véhicules. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Rémi Potier pour cet exposé très important, parce que bah, justement, il questionne la recherche, la pratique, l'éthique et tout ça. Et d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup ce petit moment au début qui disait qu'il y a toujours quelque chose qui résiste d'ailleurs à ce niveau-là, au niveau du quantitatif et tout ça. Et c'est vrai que c'est ce qui montre qu'il y a une place importante à donner à la psychanalyse dans la question du virtuel et du numérique ou autre, parce que même si elle n'était pas psychanalyste, elle l'avait bien compris, hein, quand ça résiste, ça prouve que ça existe. Donc il y a bien du sujet toujours quelque part. Juste avant de passer la parole à Pascal Piolino, un tout petit peu de publicité quand même. Je rappelle que Rémi Potier est le responsable universitaire d'un tout nouveau DU de cyberpsychologie qui vient de naître à Paris 7, qui a été surtout mis en place par Frédéric Tordeau et Serge Tisseron. Si jamais vous êtes intéressé, ça sera à peu près tous les vendredis sur Paris l'an prochain. Il y aura toujours une nouvelle session et vous pourrez regarder. C'est très intéressant et ça continuera tous les débats qu'on a aujourd'hui. Je laisse maintenant du coup la parole à Madame Pascale Piolino, qui va nous parler du coup de l'application des techniques de réalité virtuelle à l'étude neurocognitive de la mémoire humaine et ses dysfonctionnements.
Voilà. Alors, je me présente aussi. Je suis professeure de psychologie cognitive et neuropsychologie. Et je suis spécialisée sur la mémoire. Donc, finalement, je vais vous conter un itinéraire, un cheminement qui fait de mon intérêt sur la mémoire, pourquoi je suis passée par la case réalité virtuelle et pourquoi j'y crois pour justement développer de nouvelles modélisations et de nouvelles techniques de prise en charge des troubles de la mémoire. Voilà, donc mon intérêt principal dans la mémoire, c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique, cette mémoire qui nous construit en tant qu'être personnel, spécifique, et qui est très fragile finalement, puisqu'elle se développe très tardivement chez l'enfant, relativement à l'émergence de l'amnésie infantile. Elle se dégrade très rapidement aussi dans le vieillissement. Et tout patient qui a vraiment un trouble de mémoire épisodique, à la fois en termes de nouveaux apprentissages, mais aussi en termes de récupérer des souvenirs anciens, eh bien, a une perte d'identité. Et donc, on arrive dans les services cliniques à voir des personnes avec une amnésie d'identité, ils n'ont plus de mémoire. Donc il y a vraiment un lien très important entre la mémoire, et notamment la mémoire épisodique, et le sentiment, la construction de notre sentiment d'identité. Donc ça, c'est pour mon intérêt fondamental, pour seulement ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est la mémoire épisodique. Donc je vous rappelle très rapidement que ça permet donc l'acquisition et la rétention des événements personnellement vécus, qui sont situés dans un espace et un temps, mais également dans un contexte phénoménologique. Et donc, ils nous permettent de rappeler consciemment les souvenirs que nous avons vécus, et en se projetant vraiment dans le temps et en revivant de l'intérieur, introspectivement, phénoménologiquement, ces souvenirs. Et donc, c'est ça qui nous donne un sentiment d'identité phénoménologique et qui nous donne vraiment un sentiment de continuité. Donc, c'est vraiment essentiel. Et donc, c'est ces propriétés de cette mémoire qui ont guidé mon intérêt en tant que chercheur sur la mémoire tout au long de ces années. En effet, beaucoup d'études montrent bien qu'il y a dans le sentiment d'identité que l'on peut se créer, notamment donc dans les traits de personnalité, donc une extraction finalement de toutes ces petites expériences ponctuelles et phénoménologiques vers l'idée que nous avons d'être caractérisés par tel ou tel aspect. Mais en même temps, ce prisme de ces traits de personnalité, eh bien, nous guide également pour capter les nouvelles informations. Et donc, tout souvenir ou tout événement vécu est tout à fait personnel et guidé par ce prisme de notre sentiment d'identité. Il y a vraiment une interaction entre les deux. Et donc, on peut à la fois essayer, par exemple, face à des patients qui auraient des troubles d'identité, eh bien, de jouer justement sur le type de souvenirs auxquels ils peuvent avoir accès pour essayer de moduler leur sentiment d'identité. Donc, en psychiatrie, il y a cet aspect très intéressant de cette interaction entre la mémoire et le sentiment d'identité. Alors, cette mémoire, comme je vous le disais, elle est très fragile. Et donc, là, on m'a demandé de vous parler plus de l'adolescence. Mais je m'inscris dans une perspective lifespan. Et par ailleurs, j'ai vraiment commencé mon intérêt pour la recherche plutôt du côté du vieillissement. Et donc, finalement, je remonte le temps vers maintenant, plus aussi les enfants et les adolescents. Donc justement, si on parle de cette période assez cruciale, donc l'adolescence, est particulièrement intéressant. Je n'ai pas présenté les travaux que j'ai faits sur la mémoire n'utilisant pas la réalité virtuelle, mais on sait qu'à cette période-là, finalement, la mémoire autobiographique est en plein mouvement, elle se reconstruit. Les aspects épisodiques vont commencer à s'associer à des états de conscience que on va appeler autonoétiques. Et donc tout cela va moduler aussi ce sentiment d'identité. Donc cette période-là est particulièrement intéressante également sur le lien entre mémoire et identité. Donc en fin de compte, quand on s'inscrit dans une démarche de recherche et en même temps quand on est aussi intéressé par la neuropsychologie, on veut s'intéresser à comment mesurer le plus finement possible un système, ici le système de mémoire épisodique, comment l'entraîner, l'améliorer, l'optimiser et comment le rééduquer lorsque ce système est dégradé. Donc justement, cette question que je me suis posée, elle est venue de ça, de cette observation un peu triste, que nous avons une définition formidable d'un système qui est la mémoire épisodique, mais que finalement, lorsqu'on regarde les outils standards, eh bien, ils sont très pauvres, puisque, en général, on va proposer au sujet ou au patient d'apprendre des listes d'items, soit des mots, soit des images, éventuellement des visages, des images un peu plus complexes. Mais on voit bien que, souvent, on passe à côté d'un diagnostic précoce et de formes prodromales de pathologie. Donc, il y a des choses qui manquent dans ce genre d'évaluation. Alors, on pourrait essayer de les améliorer en tant qu'outils standards d'ordinateur ou autre, mais on pourrait aussi s'intéresser quel serait donc l'apport des nouvelles technologies pour essayer d'améliorer cette évaluation, cet entraînement et cette récupération. Et donc, si on parle de la mémoire épisodique, il faut au moins avoir des situations plus riches et diversifiées, avoir vraiment une mémoire personnelle, donc capter la référence à soi. Également, on parle du self, et donc le self, ce n'est pas que le cerveau, c'est l'entièreté, donc également un corps. Les émotions associées, un contexte, donc dans quelle situation intervient l'encodage ou la récupération en mémoire. Généralement, quand on parle de mémoire, nous tous, à part lorsqu'on veut vraiment apprendre quelque chose, l'encodage, il est incident, guidé par justement notre identité. Et puis souvent, on s'inscrit dans un délai de rétention très long. Donc, à cela, je me suis posé la question, il y a une dizaine d'années à peu près, sur l'intérêt de la réalité virtuelle pour essayer de mieux comprendre. Donc, je vais un petit peu reprendre, mais je vais, comme je considère que vous connaissez un peu tous, mais quand même voir les propriétés qui m'ont intéressée dans la réalité virtuelle pour après guider mes recherches. Donc, je vous dis seulement qu'en effet, il y a des mots-clés dans la réalité virtuelle, on l'a dit, hein, ça permet vraiment d'immerger un individu et de lui proposer des environnements virtuels qui peuvent être complètement imaginaires ou qui simulent le réel et dans lequel il va interagir d'une manière, voilà, on va voir avec des degrés très différents, mais disons avec une interaction sensorimotrice par l'intermédiaire d'artefacts informatisés. Donc l'idée de cette immersion, c'est qu'elle est multisensorielle, donc c'est ça sa richesse, puisqu'elle peut susciter donc des expériences de présence et aussi des effets émotionnels. Donc, les mots-clés, comme on l'a dit, l'immersion et l'interaction, donc qui est vraiment guidée par l'espace de feedback un peu sensoriel et donc qui peuvent être plus ou moins élaborés. Et puis, cette interaction où il faut aussi se poser la question vis-à-vis du patient que l'on veut donc étudier ou à qui on veut proposer des méthodes, quelle va être pour lui une méthode d'action et donc d'interaction avec l'environnement virtuel qui est écologique pour lui. Et donc on verra que en fonction des âges, c'est pas toujours la même chose. Par exemple, si on fait une personne âgée, eh bien on va peut-être pas lui proposer éventuellement toujours les casques par exemple parce que peut-être que d'autres aspects sont plus intéressants ou même chez l'enfant, vous le savez certainement que au-delà, enfin en deçà de 12 ans normalement, on doit pas proposer de port du casque d'une manière fréquente et habituelle aux enfants. Donc, il faut voilà, un petit peu revenir là-dessus, puisque c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des casques, mais lorsqu'on fait en fin de compte de la neuropsychologie, on a un prisme d'utilisation de ce que l'on dit dispositif virtuel beaucoup plus large, puisque finalement, on peut quand même susciter un sentiment de présence, et c'est quand même ça le mot-clé pour que ça marche, avec des variabilités assez importantes selon deux axes. Hein, l'axe d'interaction avec l'environnement, donc la stimulation, l'importance de la stimulation proprioceptive, mais également la stimulation visuelle extéroceptive, donc le type d'environnement que l'on va proposer. Et tout cela, je vous ai classé un petit peu certaines méthodologies dispositives, donc ça va de l'ordinateur. Hein, nous, on utilise aussi l'ordinateur et ça marche très bien si l'environnement est très écologique et que on propose, je sais pas, un joystick ou un volant de voiture que l'on va acheter dans un magasin de jeux, et ben ça peut marcher très bien pour donc avoir ce sentiment de présence. Donc il faut voir que quand on parle de réalité virtuelle, c'est quand même beaucoup plus large que uniquement parler du casque et ça marche quand même. Voilà, faut quand même garder cette idée là. Voilà. Donc je vais revenir sur trois points importants qui ont guidé mon intérêt pour la réalité virtuelle dans l'étude de la mémoire humaine. Mon premier intérêt, et c'est là-dessus où j'ai surtout, on va dire, le plus publié jusqu'à maintenant, c'était l'intérêt d'avoir, de tester la mémoire et, ou de la réhabiliter dans un contexte écologique, c'est-à-dire un contexte qui ressemble à la vie quotidienne des personnes et notamment des patients, avec l'idée qu'on aura des outils beaucoup plus proches de l'expression et de la plainte mnésique dans la vie quotidienne. Aussi, ce qui m'intéresse et de plus en plus, c'est cette possibilité, en immergeant quelqu'un en réalité virtuelle, d'avoir un enregistrement online de son comportement et donc de traquer la mémorisation à partir même du l'encodage. Deuxième point très important, c'est, en tout cas, nous, en cognition, on parle beaucoup de mouvement de la cognition incarnée, c'est-à-dire le fait de remettre bien le corps au centre de la cognition. Et donc ça, il est vrai que là, il y a une justification théorique, en plus de seulement écologique, à la réalité virtuelle pour redonner l'intérêt, justement, de s'intéresser à l'impact du corps, du mouvement, dans la mémorisation, par exemple, mais de la cognition en général. Autrement dit, le troisième point aussi, c'est l'identité. Donc, je reviens un peu là-dessus. Et donc là, c'est mes études plus récentes. En effet, on peut très bien, très facilement s'incarner dans l'autre, dans une image de soi. Et donc, se mettre à la place d'autrui, donc ça nous va vers la représentation de soi, mais la représentation d'autrui. Donc, c'est des choses très intéressantes sur la mémoire. Et puis aussi, la flexibilité des points de vue. Je peux avoir plein de points de vue différents et de voir un même objet de points de vue différents. Et donc, ça, c'est aussi très intéressant. D'une part, parce que ça suscite une flexibilité mentale et cognitive. Donc, ça permet d'avoir une technique assez simple pour stimuler ce type de comportement chez les sujets. Et en plus, ça permet également d'étudier certains phénomènes très intéressants de la mémoire, notamment épisodique, qui est l'incorporation, c'est-à-dire vivre les choses à la première personne. Est-ce que c'est vraiment crucial ou est-ce que finalement, on peut très bien avoir une mémoire épisodique de points de vue différents? Donc, je vais reprendre ces points. Donc, validité écologique en cognition, ce n'est pas nouveau. Nous avons Nesser, dès les années 70, qui est considéré comme un des pères de la psychologie cognitive et qui nous dit qu'il faut sortir du laboratoire si on veut avoir des expériences qui vont être plus larges que seulement décrire des petits phénomènes ponctuels. Et donc, il prône vraiment d'aller vers la nature, d'aller vers l'expression comportementale cognitive dans son milieu naturel. Donc, ce qui est bien, c'est que la réalité virtuelle, il existe certains papiers qui montrent, alors bien que les éléments de preuve ne sont pas encore tout à fait probants comme on aimerait, mais néanmoins, lorsqu'on compare certains modes de présentation, il semble que la réalité virtuelle a un gain, un plus par rapport au fait qu'elle peut avoir une validité écologique élevée, d'autant plus si l'environnement simule les activités de la vie quotidienne ou la réalité, mais en plus un contrôle expérimental beaucoup plus facile à réaliser que dans une situation, on va dire, complètement écologique où c'est difficile pour un chercheur de tout maîtriser. Donc, également, dans la réhabilitation, quelques papiers montrent que lorsque l'on réhabilite un comportement en réalité virtuelle, eh bien, il y a un vrai transfert dans la vie quotidienne, tandis qu'on ne voit pas ou très peu cela lorsqu'on essaye de réhabiliter avec d'autres types d'outils. Alors là, c'est seulement pour vous montrer des éléments de preuve. Donc, c'est une étude qu'on a réalisée dans mon laboratoire. On a comparé... je pense que j'ai perdu tout... Ah non. On a comparé une promenade dans la gare SNCF Saint-Michel en réalité virtuelle versus dans la vraie gare. Et donc la tâche était de trouver son chemin. Et si vous connaissez la gare RER Saint-Michel, c'est très difficile de s'y retrouver. Donc nous avions des enregistrements subjectifs, objectifs en termes de mémoire et implicites, donc en termes de mesures physiologiques, c'était la réponse électrodermale. Donc l'intérêt, c'était de voir si on pouvait vraiment dire qu'il y a similitude comportementale entre les deux. Donc d'un point de vue de la mémoire, on a tout à fait trouvé la même chose entre l'environnement virtuel et la mémorisation dans l'environnement réel, puisque si vous comparez donc les deux, donc alors il y a violet ou violet clair, parce que nous avons aussi comparé des habitués de la station Saint-Michel et des novices, c'est-à-dire des gens qui ne connaissaient pas. Donc on a aussi introduit une variable d'expertise. Et puis donc la réponse électrodermale, tout au long de ce chemin, il y avait différentes périodes, et notamment une période assez stressante où c'est là que les gens se perdent et n'arrivent pas à trouver le bon chemin. Et on voit qu'en réalité virtuelle ou dans la version donc réelle, eh bien, on a au même moment le fait que les novices ont un pic de stress et donc ont un pic de réponse électrodermale, et on le trouve exactement au même moment et exactement statistiquement comparable. Donc ça, pour nous, c'est quand même un élément de preuve montrant bien qu'on a un intérêt d'étudier les comportements en réalité virtuelle, qu'ils s'approchent beaucoup donc du réel. On n'est pas les seuls à le dire. Là, on l'a testé expérimentalement, mais déjà, les psychiatres notamment ont bien montré que les réactions comportementales, par exemple ici, paranoïaques, en réalité virtuelle ou dans un environnement virtuel, étaient les mêmes. Et donc ça, c'est vraiment une des bases d'utiliser cela, et actuellement, que ce soit dans les addictions ou donc dans ce qu'on appelle la cyberthérapie, c'est vraiment un des arguments pour montrer qu'on a tout intérêt d'utiliser la réalité virtuelle. Alors, deuxième point, c'est la cognition incarnée. Donc, à la fois, la cognition est située dans un contexte et elle est donc elle est ancrée dans un corps, et elle émerge des interactions entre ce corps et ce contexte. Donc, c'est vrai, comme je vous le disais, que la réalité virtuelle est un moyen technique particulièrement intéressant pour pouvoir tester ces interactions. Alors, quand on parle d'embodiment, il y a finalement trois éléments importants dont on peut parler. C'est le point de vue. Donc, ce que les Anglais disent, le self-location, l'embodiment en tant que tel, donc l'idée d'avoir vraiment un corps, d'être incorporé dans son corps, et puis aussi le sens de contrôler l'agentivité. Donc, tout cela, si c'est bien synchronique entre le réel et le virtuel, ça va vraiment nous donner un sentiment de présence tout à fait fort d'y être. Alors, l'un des premiers qui a voulu tester ça, ce sont les laboratoires qui ont beaucoup travaillé sur le self, et notamment sur l'illusion visotactile. Donc, vous la connaissez, je pense, tous, la main en caoutchouc. Et ils ont montré, les premiers, donc notamment le labo de Slater à Barcelone, que nous avions la même illusion de la main en caoutchouc. Je n'aurai pas le temps de vous la décrire, mais si vous voulez me poser des questions après, je vous décrirai mieux. Donc, l'idée, c'est de s'incorporer dans la main en caoutchouc, de penser qu'elle nous appartient vraiment. Et ici, en réalité virtuelle, l'avatar, le bras avatar, à un moment donné, lorsqu'il est stimulé synchroniquement à l'extérieur, donc le vrai bras et sa version virtuelle, lorsque cette stimulation est très synchronique, au bout d'un certain temps, le sujet est persuadé que son avatar de bras est bien son avatar, son bras réel. Donc ça a été énormément utilisé donc dans notamment la psychiatrie, puisque comme ça, on a pu vraiment essayer de jouer sur des thématiques de troubles de schéma corporel ou de troubles également sociaux, en utilisant justement le fait de pouvoir incorporer un sujet dans un monde réel, dans une version virtuelle auquel il adhère et il y croit complètement. Alors, oui, justement, là, je vous ai mis quelques images d'environnement qui ne sont pas de mon labo, mais qui sont vraiment utilisées dans différents services cliniques pour justement utiliser cette propriété de l'embodiment pour tester et réhabiliter différents types de pathologies en psychiatrie. Alors, le dernier, c'est l'identité et le référentiel. Donc, vous connaissez, je suppose, l'effet Proteus, qui fait que spontanément, on va s'identifier aux représentations stéréotypées que peut représenter un avatar. Et donc, ça va moduler, ça va activer nos schémas représentationnels dans le cerveau. Et donc, on va moduler nos performances inconsciemment, bien sûr, moduler nos jugements inconsciemment. Et d'autant plus que vous utilisez des techniques d'embodiment, en plus de cet effet-là qui est psychologique, cognitif, eh bien, les sujets vont pouvoir avoir des performances modulées en fonction de leur donc incarnation dans tel ou tel type. Donc là, ici, c'était une étude où on a regardé l'inventivité de sujets. Et donc, on voit que ceux qui se sont incarnés dans des inventeurs, des avatars inventeurs, eh bien, étaient plus inventifs, notamment sur des solutions techniques. Les autres étaient inventifs, mais uniquement sur des méthodes plutôt de donc, l'intérêt personnel. Donc, il y a également le point de vue. Donc, je vais finir parce que je voudrais avoir le temps de vous donner quelques études qu'on a faites. Donc, pour ce faire, nous avons créé depuis quelques années une plateforme de réalité virtuelle qui s'appelle Virtualia, où dans cette plateforme, donc normalement, les choses, voilà. Donc, nous avons donc tout ce qu'il faut pour immerger les personnes dans donc des environnements virtuels. Donc, ça commence par la création d'environnements. De travailler sur le type d'interaction et d'immersion le mieux, puis après d'aller proposer des collaborations avec des services cliniques pour pouvoir donc soit mesurer, soit réhabiliter certains aspects. Mais là, je vais parler surtout de la mémoire. Donc, nous avons élaboré un paradigme de mémoire épisodique. C'est celui-là que nous avons validé. Alors, on parle de validation, c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas, on l'a appliqué dans vraiment beaucoup de sujets, de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge donc très avancé, dans plein de pathologies, à la fois en psychiatrie et en neurologie. Le principe est le suivant, c'est d'être immergé dans un environnement, pas forcément avec un casque, hein, ça peut être très bien avec un écran d'ordinateur et un joystick, et également après de demander au sujet tout ce qu'il a vu de saillant, où il l'a vu, quand il l'a vu, comment il l'a vu, quel détail, et de calculer un score de binding. Le score de binding est une mesure assez pure de la mémoire épisodique et très hippocampo-dépendante, donc particulièrement intéressant pour nous. Donc chez l'enfant, puisqu'on m'a demandé ici de parler plus de l'enfant et de l'adolescent, donc nous l'avons proposé à des enfants, donc au moyen d'ordinateur et donc d'un joystick, de se balader dans une ville virtuelle et de nous rapporter tous les éléments saillants. Nous avons comparé ça avec un outil standard qui était aussi visuel et qui permettait aussi de tester eh bien, des éléments associatifs. Donc, voici un peu un diapo parlante. Vous avez l'évolution donc des performances de 6 ans à l'âge adulte avec la version virtuelle de mémoire épisodique. Et vous avez donc eh bien, la version, d'accord, la version donc standard. Donc, nous l'avons proposé à plusieurs pathologies. Donc là, ce qui nous a intéressé à cette époque, c'était la finesse de cette mesure en virtuel qui permettait de détecter des troubles qui étaient, par exemple, présents dans le comportement ou les apprentissages scolaires, mais qui n'étaient pas détectés par des outils standards. Et donc, je finirai, si vous m'accordez une minute, j'ai le droit, merci beaucoup. Les effets de référence à soi, donc pour ceux qui connaissent, c'est le fait que quand vous référez une information à vous-même, d'un point de vue narratif, mais également d'un point de vue, on va dire, corporel, phénoménologique, eh bien, vous mémorisez beaucoup mieux cette information. Et donc, nous les avons testé cet effet-là pour après l'appliquer, notamment chez, nous sommes en train de le faire à la Salpêtrière, chez les patients donc adolescents avec ultra haut risque de psychose. Le fait de voir, de manipuler le point de vue, donc première personne, troisième personne, et le fait que le contexte soit autobiographique, donc une self-référence narrative ou non, donc c'était le Quartier Latin et les gens étaient soit des habitants du Quartier Latin, soit ils ne le connaissaient pas. Et donc, nous avons montré, même chez les adolescents, que quand on est vraiment en self, que ce soit donc autobiographique ou première personne, eh bien, on améliore nos capacités de binding. D'où l'idée de manipuler cela pour essayer d'améliorer les liens entre mémoire épisodique. Et dernière chose, j'abuse, excusez-moi, mais après, c'est le repas, donc... donc, l'embodiment, comme je vous disais, je vais vous montrer une petite bande. Voilà comment on fait aussi. Donc là, il s'agit, avant de faire naviguer les sujets, de les incarner dans leur avatar. Donc, c'est des techniques de synchronie. Donc là, la personne, eh bien, on commence à lui montrer que quand elle bouge, l'avatar bouge en miroir. Et après, on va faire une technique, eh bien, vraiment de stimulation visio-tactile, donc en synchronie. C'est-à-dire qu'un autre avatar va stimuler le bras de ce premier avatar, et tandis qu'à l'extérieur, un expérimentateur va stimuler le bras. À la fin, lorsque l'avatar est stimulé par l'autre avatar, eh bien, le sujet à l'extérieur a l'impression qu'on est en train de le toucher. C'est assez impressionnant et ça marche vraiment sur tout le monde. Donc, je passe. Tout ça pour vous dire que nous avons donc comparé différents niveaux d'embodiment pour l'incarnation dans des environnements. Et donc, on a vu que ça jouait sur le sentiment de présence. Plus vous êtes incarné dans l'avatar, plus votre sentiment d'être présent dans l'environnement est fort. Plus vous avez un sentiment d'être vraiment fortement incarné. Et donc, nous, ce qui nous a intéressé, c'est que, joliment, on a montré que les capacités de binding épisodique dégraissaient en fonction de la pauvreté du niveau d'embodiment et que plus on était incarné, plus on était capable d'encoder tous les détails sensoriels, contextuels qui caractérisent la mémoire épisodique. Joliment, ça, c'est en concordance avec un papier de l'équipe de Herson qui avait montré aussi que en mimant une sortie du corps dans un environnement virtuel avec un casque, les gens étaient moins capables de rapporter tous les détails de la scène vécue s'ils l'avaient vécue dans le casque d'un point de vue à l'extérieur d'eux-mêmes. Et c'était corrélé à l'activation de l'hippocampe. Donc, l'idée, c'est d'utiliser toutes ces techniques pour pouvoir maintenant, que l'on a validé le fait que ça marche d'un point de vue des effets d'optimisation, de pouvoir manipuler cela pour pouvoir réhabiliter donc des enfants, des adolescents et bien sûr des adultes qui auraient des troubles de l'interaction mémoire et sentiment d'identité. Et donc là, l'étude multicentrique, donc pour incorporer plus de 100 patients, parce qu'on a parlé ici des problèmes de validité de ce que l'on fait, on l'a fait donc chez des jeunes schizophrènes, donc en les réhabilitant dans des environnements, et donc on a publié des premiers résultats pilotes avec l'équipe donc de Marie-Odile Krebs à la Salpêtrière, et donc là on est en train d'essayer de valider sur donc cette étude multicentrique. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse seulement cette dernière slide, mais je ne vais pas la commenter. Et je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Pascal Piolino, pour cet exposé passionnant. Désolé à tous les trois de vous avoir coupé et de ne pas vous avoir laissé terminer. On va faire passer des micros dans la salle pour ceux qui ont des questions. N'hésitez pas, on a un petit peu de temps avant la pause repas. En tout cas, juste pour dire un petit quelque chose sur ce que vous avez dit, c'est vraiment super intéressant parce que ça pose énormément de questions pour l'avenir, aussi bien sur l'intérêt de ces thérapies et de tout ce qu'on va pouvoir en faire, mais également pour ce que ça pourra mettre en place aussi bien du côté du jeu vidéo, avec toute l'importance donnée bientôt aux capteurs et émetteurs haptiques sur les manettes, et également au côté un peu fantasmé aujourd'hui, mais du transhumain. Je pense à l'épisode de Black Mirror où ils ont une puce qui leur permet de sauvegarder tout ce qu'ils voient aussi. Donc, toute cette question de la mémoire, enfin, un exposé qui nous fait penser aussi bien à maintenant, mais surtout beaucoup à après aussi, du coup. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Bon, il va falloir parler fort, du coup.
Voilà, je parle fort.
Ah, ça marche.
Ah, ça marche, voilà. Donc, oui, pour moi, Mathieu Toigny. Donc, quand vous avez évoqué l'enfant qui apprend avec un robot, vous avez présenté sur l'écran deux situations. L'enfant face à un robot réel, un AO, et l'enfant face à un robot virtuel qu'on voit synchrone dans les mouvements. Mais ces deux situations renvoient à deux choses très différentes. La relation au robot, c'est un autrui, c'est une machine, mais un autrui quand même. Mais la situation face à l'écran, c'est un double, c'est un alter ego, c'est le miroir. Donc, quelles implications de ces deux situations ?
Alors, en pratique, pourquoi je montre la vidéo en fait, l'aspect virtuel, il nous sert plus à développer en réalité. C'est des choses très très concrètes sur le développement même, mais on l'utilise pas en face des enfants. On n'utilise jamais le virtuel, justement parce que dans nos premières expériences, ça marchait pas très bien. Et notamment pour le mouvement, parce que quand on commence à faire des gestes, on a besoin de la 3D, de l'aspect physique. Et de la taille. Donc la vidéo, c'est surtout parce que j'ai pas envie de montrer des enfants avec les robots en face, c'est surtout ça. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on a abordée assez rapidement. On s'était dit, mais pourquoi ? Mais c'est une question qui est très récurrente. Pourquoi vous avez besoin de robots pour faire ce genre de tâches ? Ça peut être l'écriture, ça peut être... Parce que très souvent, on peut avoir la tablette, on pourrait faire des choses, surtout que ça coûte moins cher finalement de pouvoir le faire. Nous, on est déjà plus dans l'investigation, donc c'est peut-être différent parce qu'on ne cherche pas un marché à faire un vrai produit, on cherche plutôt à comprendre. Donc on n'est pas dans ces questions-là, mais le virtuel, oui, ça, pour certains aspects, ça peut l'être intéressant, mais dans cet aspect-là, de mouvement, par exemple dans l'attention conjointe, on a fait la même chose en virtuel, ça avait pas vraiment de, on avait une vraie force dans un signal plus simple, moins riche peut-être, mais physique, oui.
Alors, on a le temps pour une dernière question. Ah, donc au fond, on va peut-être demander à monsieur, parce qu'il y a déjà eu une question de poser tout à l'heure, du coup. Ah, attendez, il y a le micro qui arrive, du coup, parce qu'on ne vous entend pas très bien d'ici.
Oui. Pour madame Piolino, quand vous parlez de facteurs de risque sur le plan technique,
oui, c'est le cybermalaise. C'est dès lors que le temps réel n'est pas parfait et ou que vous n'avez pas bien pensé l'adéquation réelle virtuelle, il y a des problèmes. Mais sinon, des facteurs de risque, ça dépasse largement le cybermalaise. Il y a plein d'éléments. Enfin, on est dans une commission aussi intéresse et donc il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc le temps maximum pour porter des casques, par exemple, les répercussions sur le développement d'un cerveau, et puis même le contenu aussi, parce que là, on n'en parle pas, mais là, c'est des contenus assez écologiques. Mais si on est confronté à d'autres types de contenus, sachant qu'il y a une adéquation physiologique entre vivre l'expérience réelle et la vraie l'expérience en virtuel, on pourrait susciter des crises cardiaques, par exemple, si quelqu'un, on le fait se jeter d'un immeuble. Donc tout ça, il faut y penser, voilà, et donc avoir des règles éthiques d'utilisation. Voilà. Donc c'est en ça où je n'ai pas eu le temps d'en parler parce que j'avais trop de choses, mais il faut savoir aussi quand même qu'il y a ce bémol à tenir compte dans la réalité virtuelle.
Et à nouveau, merci beaucoup à Mohamed Chetouani, Rémi Potier et Pascal Piolino, et je vous souhaite un bon appétit et à cet après-midi.